LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Je m'appelle Alex, j'ai 14 ans et j'habite à une heure d'ici, donc c'était compliqué de venir, mais j'avais très envie, donc voilà, je suis quand même venue. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement. Le sujet de la jeunesse et de la génération m'a toujours intéressée, et certaines personnes ont du mal à ressentir en fait de l'empathie pour la jeunesse, notamment des adultes qui pensent que tout va bien et que les jeunes n'ont pas le droit de se plaindre et qu'ils n'ont pas de problème à leur âge. Alors que, ben, justement, ça m'intéresse pour dire que non, dans chaque génération, il y a des problèmes majeurs, et tout le monde est légitime d'avoir des problèmes et d'être pris au sérieux.
Jeunesse, le mal de vivre. Une série documentaire de Johanna Bedeau, réalisée par Marie-Laure Ciboulet.
Vous, Alex, quel est votre parcours ? Vous êtes venu à l'hôpital de Mâcon il y a combien de temps la première fois ?
La première fois, c'était le 22 septembre 2022. Donc c'était pile pour le début de la rentrée de 3e. C'était devenu très très dur. Enfin, j'allais déjà pas bien depuis un long moment, mais la rentrée a vraiment tout empiré. J'avais plus envie de sortir, j'avais plus envie de parler à personne, et même les choses que j'aimais avant, bah, je les aimais plus. Je voulais juste que ça s'arrête et que toutes ces pensées, toute cette tristesse s'arrête. Et aussi, j'avais un grand manque de confiance en moi, je me détestais, et rien que le fait de me voir et tout, ça me blessait vraiment, et j'avais des pulsions des fois de me faire du mal et de me suicider, donc c'était très compliqué. Mais j'ai jamais tenté de me suicider. Et donc j'ai vu un psy pour la première fois, parce que je n'en avais jamais vu, c'était au CMP de Paray. Donc c'était très dur de tout dire en un seul coup, parce que j'étais très peu habituée à parler de mon passé et de mes problèmes. J'ai tout lâché, j'étais en pleurs. En voyant tout ça, il m'a hospitalisée à Mâcon le jour même, parce qu'il m'a jugée en grand danger. Il m'a aussi diagnostiqué d'une dépression sévère. Ça montre voilà, qu'il s'inquiète et qu'il veut ma sécurité. Et c'est différent des personnes qui juste disent d'accord, mais qui n'écoutent pas vraiment ce qu'on dit et qui juste mettent un autre rendez-vous 3 mois plus tard, alors qu'ils ne savent pas vraiment si on sera vraiment toujours là 3 mois plus tard. Même très jeune, en primaire, j'avais des problèmes. J'étais souvent très seule et ignorée. Et donc je pleurais tous les soirs que j'allais pas bien. Et souvent mes parents ne comprenaient pas et cherchaient pas à comprendre. Et ils disaient « Oh, ben, c'est peut-être de ta faute si tu n'as pas d'amis ». Et donc j'imagine que souvent dans ma jeunesse, les problèmes ont été ignorés et les signes ont été ignorés. Ce qui me fait me remettre en question sur pas mal de choses. Et je me dis que bah voilà, je ferais mieux de rien dire, parce que de toute façon c'est pas si important que ça, et que personne ne m'écoutera vraiment. Donc je pense que c'est ça aussi, ce renfermement. Et aussi, je veux déranger personne et inquiéter personne, en fait. Je me dis, les gens ont déjà assez de problèmes comme ça, alors faut pas leur en rajouter en parlant des tiens.
Troisième épisode, le suicide. Écoutons-les vraiment.
Eva Bugadou, votre poste a été créé à quel moment ici ? Après le Covid ? Pour répondre à cette demande des adolescents ?
Oui. Oui, je suis arrivée, c'était en 2021, et donc c'était un poste financé par l'ARS, justement pour répondre à l'arrivée massive et à l'occupation massive des lits de pédiatrie par des adolescents en souffrance psychique. Donc c'était aussi une réponse qui a été faite au niveau institutionnel pour dire « Ah oui, il y a des besoins d'accueil et d'accompagnement de ces ados-là ». Quand ils arrivent ici, mais ils disent « Mais j'en peux plus, j'y arrive plus ». Voilà, ça se caractérise effectivement par l'intensité de la souffrance. Ils ne peuvent plus faire. Et avec des expressions très différentes, au fond. Hein, ça peut s'exprimer par des idées suicidaires, c'est-à-dire que j'en peux tellement plus que j'ai envie de mourir, que je crois qu'il y a plus que ça. Ça peut s'exprimer par des comportements violents envers soi ou envers les autres. Ça s'exprime aussi par un état de repli, c'est une incapacité à faire avec la vie, quoi. Donc des jeunes qui ne peuvent plus aller à l'école, qui ne peuvent plus sortir de chez eux, qui peuvent plus être en relation avec leur famille. Et puis, ben, il y a aussi des adolescents qui arrivent parce que là, ils sont vraiment dans un état de crise psychique, mais un état de crise psychique délirant. C'est-à-dire que là, ils sont vraiment tellement mal que, voilà, ils en deviennent fous, quoi.
Les professionnels de l'enfance et de l'adolescence sont confrontés depuis plus de 3 ans à une forte hausse des gestes suicidaires chez les mineurs. Une explosion longtemps mise sur le compte du Covid, mais qui perdure dans un contexte globalement anxiogène. Phobie, comportement suicidaire, trouble du comportement, tout y passe. À Rennes, avec l'équipe de l'unité mobile de soins à domicile du centre hospitalier Guillaume Régnier, l'UMSAD, à l'hôpital de Mâcon ou à l'Institut Mutualiste Montsouris, on y reçoit des mineurs en souffrance et des parents déboussolés.
J'ai vraiment dit à ma mère que j'en pouvais plus. Elle a lu une lettre de suicide, elle a lu mon journal où j'écrivais tout ce qui était dans ma tête. Et donc ce que j'ai considéré vraiment comme une trahison. Et donc depuis, j'écris plus dessus, mais ça m'a blessée. Mais en même temps, ça a fait avancer les choses parce que j'ai pu en parler. Parce que si elle n'avait pas lu, je ne sais pas si j'aurais pu lui en parler de moi-même. Elle a découvert tout, entre guillemets, pour le premier psy que j'ai vu, où elle est tombée de haut et elle était un peu dans le déni. Après, il y avait Eva, où je lui ai expliqué une histoire d'attouchement dans mon enfance, ce que mes parents ont appris aussi et qui était une chute, parce que j'en avais jamais vraiment parlé. L'histoire de l'attouchement, c'était un membre de ma famille, le petit-fils à mon père. Donc c'était très compliqué pour mon père surtout parce que ça brisait une partie de sa famille et souvent je ressens de la culpabilité pour ça. Et donc la mère de cette personne ne me croit pas et toujours est dans le déni. D'ailleurs il y a eu une affaire de police, une affaire judiciaire à propos de ça qui il n'y a pas longtemps a été classée sans suite, donc il n'y aura plus rien.
Les ados qu'on rencontre, ils ont des parcours de vie marqués par des choses inimaginables, quoi. Vraiment, la violence intrafamiliale, violence physique, violence sexuelle, violence verbale, des ruptures multiples. Enfin, je crois qu'on n'imagine même pas, quoi, ce que certains enfants et ce que certains adolescents peuvent vivre. Donc, je crois que cette question-là que je me pose parfois, c'est la question que les adolescents se posent. Comment on peut survivre à ça? Mais je crois qu'aussi, ça parle de... Mais comment on peut vivre, comment on peut survivre dans cette société-là?
Le confinement, le post-confinement, et surtout ce que j'appelle la dérive des contenants. C'est-à-dire la dynamique familiale qui s'est beaucoup lézardée à la suite de cette pandémie, du Covid, enfin de tout ce que vous savez, de la guerre en Ukraine, des anticipations anxieuses, le nombre de séparations, de divorces, La cohésion, la cohérence familiale n'est plus ce qu'elle était, je parle globalement. Or, les adolescents n'aiment pas du tout, mais alors pas du tout, percevoir la fragilité de leurs parents.
Maurice Corcos, professeur de psychiatrie, chef de service du département de psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte à l'Institut Mutualiste Montsouris.
S'il y a bien quelque chose à transmettre aux parents, c'est que, non pas qu'ils fassent semblant, mais qu'ils se soignent si jamais ils sont déprimés, si jamais ils vont mal. La dépression paternelle ou maternelle liée à une insatisfaction professionnelle, liée à des désordres affectifs conjugaux, aiguise les appétits de destructivité de l'adolescent à l'égard des parents. Ils vont aller le chercher comme ça pour tenter de le réanimer, mais dans des attitudes destructrices. Donc la cohésion, la cohérence familiale, globalement, n'est plus ce qu'elle était. Nous sommes effarés par le fait que, avec notre petit angle de vue, nous recevons un nombre de familles considérables qui ne savent pas comment contenir leur enfant. Mais pour des gestes simples, Pas avec cette intensité. Ils nous les amènent, ils nous les déposent, certains s'en débarrassent parce qu'ils ne savent plus comment les gérer. Parce qu'eux-mêmes sont en insécurité, en mésestime d'eux-mêmes, en perte de confiance et qui ne savent pas comment contenir des choses que nous pensons ne pas être de l'ordre du pathologique et qui pourraient contenir tout à fait et qu'il ne faudrait pas psychiatriser. Bon, la société, le monde a tangué. Le contenant santé ne va pas bien du tout. Et en particulier la psychiatrie, et en particulier la pédopsychiatrie. Il y a des trous partout. Le contenant policier fait ce qu'il peut, mais il est dans une attitude en miroir, en écho avec la violence que ses adolescents perpétuent. La justice qui répond pas, ou avec une distance et avec une certaine sévérité. J'ai été juré d'assises là dernièrement, j'ai été assez effaré avec la façon avec laquelle on juge de manière expéditive des adultes jeunes qui ont commis des délits et des crimes, mais dans des états de désorganisation psychique majeure. J'ai oublié l'enseignement parmi la dérive des contenants. L'enseignement par télétransmission, c'est une catastrophe absolue. Il n'y a pas de compagnonnage, il n'y a pas de consanguinité affective qui permet de transmettre un message. Ça se fait sous forme de diapos qui sont balancés, un texte totalement incompréhensible et qui doivent ingurgiter. Ces contenants-là, le politique aussi, bon, il y a beaucoup d'éléments qui participent à faire que si ces différents contenants sont lézardés, sont fragilisés ou ne sont plus là, le contenu, l'enfant, l'adolescent en développement, ben, il va pas aller bien. Tous ces tuteurs de développement qui permettaient de culturiser, de civiliser sa pulsionnalité, s'ils sont défaillants, ben, il va être dans une excitation libre, dont il va se gargariser, la liberté libre de Rimbaud, mais que cette liberté, si elle n'est pas canalisée par un minimum de contraintes pour la contenir, pas pour lui interdire, aboutit dans tous les cas à la rencontre avec la contingence. Et après la contingence, c'est le désordre, et après le désordre, c'est la destructivité. Ça, c'est la nature humaine. Cette tendance à la chute, cette vulnérabilité, il suffit que elle rencontre des adultes un peu plus raisonnables, raisonnés, fermes, bienveillants, pour que ça s'inverse et que ça peut se transformer en élévation, ça c'est certain.
Les enfants sont le reflet extrêmement précis du malaise sociétal.
Pierre Lévy-Soussan, psychiatre et psychanalyste.
Ça passe toujours par eux. Donc la façon dont on traite les enfants et la façon dont la société se comporte et situe son éthique. Donc une société qui traite mal, qui soigne mal ses enfants, reflète pour nous un état de dégradation éthique avancée. Et c'est vraiment le cas. La société est très mal à l'aise pour fournir des lois et des repères structurants pour donc à la fois pour construire la famille et à la fois comme retentissement sur l'enfant. Or, c'est véritablement le champ législatif et familial qui donne les bases et le socle identitaire à l'enfant. Le vrai champ de prévention de tout cela, ça devrait être le poste principal de budget de l'État. Étant donné que notre avenir repose sur l'enfant. Donc c'est pour ça que maltraiter l'enfant, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, quoi. C'est-à-dire on construit notre futur et leur futur d'une façon extrêmement dégradée.
Consultation de pédopsychiatrie à l'hôpital Robert Debré à Paris.
Moi, je suis le docteur Trébossen, je fais partie de l'équipe de pédopsychiatrie. On va pas aujourd'hui revenir sur toute l'histoire, on a bien tout en tête. Je pense que vous aviez rencontré Madame Ten déjà aux urgences.
Moi, j'ai rencontré votre fille. Je vous ai pas rencontré, non. Mais j'ai rencontré votre fille.
Avec le plan de sécurité, etc. L'idée, c'est plutôt, tu es sortie des urgences jeudi dernier, si je ne me trompe pas. L'idée, c'est plutôt de savoir comment ça s'est passé depuis la sortie et puis qu'on puisse un peu ajuster les choses là aujourd'hui.
Tu veux dire comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. À part les premiers jours, parce que ma sœur m'a extrêmement blessée en disant que, en fait, elle aurait bien voulu que ma tentative de suicide marche et que j'aurais dû encore rester à l'hôpital. Elle a très clairement dit qu'elle voulait pas que je sois avec elle et dans la vie, quoi. Et donc, dans les premiers jours, à part jusqu'à dimanche, ça m'a extrêmement blessée. Genre, j'en pleurais
c'est
et tout.
C'est ta grande sœur, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Et en fait, après, donc, maman m'a expliqué que, en fait, ma sœur n'était pas bien. Mais qu'elle s'en voulait de me dire des choses pareilles, qu'elle avait fait quelques actions montrant qu'elle s'en voulait. Donc après j'ai pris du recul et là depuis j'ai pas repensé. Et sinon l'école ça s'est très bien passé.
Est-ce qu'on a l'école dès vendredi ou...
Non, lundi.
Donc. Lundi, hier, t'es même rentrée très, très excitée.
Ouais,
mais hier, avant sa tentative, il y a eu tout le week-end, c'était la grande excitation. Enfin, alors, je sais pas si c'est les médicaments.
Non, mais j'ai des sous d'humeur aussi.
Jeudi, elle m'a appelée en me disant qu'elle allait pas bien et qu'elle était effondrée à l'école, enfin au collège. Donc, effectivement, elle m'a dit oui, mais tu allais faire une tentative de suicide ou que tu avais des pensées suicidaires, je sais plus ce que tu m'as dit. Qu'elle déjeunait avec une copine à la maison. Je lui dis très bien, reste avec ta copine, etc. Moi, je me suis pas méfiée plus que ça, parce que des idées suicidaires, je savais que ça existait et elle en parle. Et en fait, après, du coup, le week-end, moi, j'étais toute seule, parce que par ailleurs, on vit avec mon mari, on est une famille assez stable, mais qui n'était pas là. Et du coup, Lisa, je voyais qu'elle allait s'amuser avec ses copines, elle avait l'air bien. Mais après, moi, je les entends pas, la partie est assez grande, etc. Après, c'est quand j'ai pris son portable, quand elle était hospitalisée, j'ai regardé, effectivement, c'était un peu la grosse éclate.
Ouais.
Et tout le week-end, elle était très... je sais pas, t'as passé le week-end à danser, en gros. Parce qu'une fois qu'elle a fini avec ses copines, c'est comme si tu venais avec nous, tu voulais reproduire ça avec papa, à part que nous, franchement, quoi, couper et tous ces trucs-là, il n'y a aucun répondant. Mais hier soir, elle était entre l'excitation et l'euphorie. Okay.
Et ça, c'est différent de d'habitude.
Ouais.
C'est pas la Elissa de d'habitude.
Moi, je m'inquiète pas pour ça. Bah, à l'école, je suis totalement comme ça. Hein.
Mais après, moi, je sais pas comment.
Oui, mais ça, c'est que j'ai cru que vous étiez mes potes et en fait, bah, pas du tout, vous êtes mes parents.
Et c'est quand même assez concordant avec l'augmentation de la posologie du traitement.
Parce qu'elle est passée, cet hiver, avant son traitement, elle était totalement effondrée et vraiment dépressive. Et puis, surtout, elle faisait des grosses crises d'angoisse à l'école. Puis, elle ne dormait pas, donc elle n'arrivait plus à aller au collège. Et donc, c'est pour ça qu'au bout de 6 mois de psychothérapie, sa psy, qui était psychiatre, lui a prescrit des antidépresseurs. Et je sais pas quand est-ce qu'elle t'a augmenté à 30.
30, c'était après.
4 semaines. Après quoi?
C'était après un mois de traitement.
Enfin, le jeudi d'avant sa tentative, elle est passée à 40. Après, je sais pas si c'est lié à ça, parce qu'effectivement, je pense qu'elle a des copines qui sont aussi excitées au naturel.
Vraiment, mais.
Moi, j'arrive pas du tout à juger.
Maman aussi, j'étais plus avec.
C'est comme les débardeurs, tout ça, c'est nouveau.
Oh là là.
Mais
je dis,
attends, mais c'est pas. Ça, on n'est pas là pour parler traitement, mais c'est juste. C'est la première. Enfin, elle s'est abonnée là il y a quelques jours à TikTok, à Instagram. C'est la première fois que tu mets des débardeurs alors que t'étais toujours en long truc et que tout d'un coup t'es sexy.
Mais ça fait longtemps que j'y pensais.
Il y a même un changement dans le comportement, on est d'accord.
Oui, mais après, elle a toujours, même à l'école primaire, elle changeait souvent de groupe de copines. On sent une certaine forme de je me recherche. Mais là, c'est vrai que ces temps-ci, c'est un peu exacerbé. T'es passé du t-shirt qui t'arrive là, comme ça, de papa,
à
mon débardeur qu'un sous-vêtement en fait.
C'est son sous-vêtement pour toi, pour moi, c'est un t-shirt.
D'accord, enfin c'est pas le sujet, mais je veux dire, moi du coup, j'arrive pas à juger ce qui est effectivement. C'est la fin de l'année, ils passent leur temps à faire des batailles d'eau au parc avec les copains parce que c'est l'été que tout le monde s'éclate. Ou.
Ce qui est un changement de comportement.
Ou médicaments mal réglés, ou trucs pathologiques. Okay. Moi,
là, on est à 30 ans, on est d'accord. Hein.
Ouais, on est à 30.
Ok. On va faire juste le point avec Elissa, puis on se revoit à la fin.
Bye bye.
T'es ok pour qu'on continue?
Qui va se jouer à l'adolescence et le deuxième acte d'une pièce qui s'est jouée dans l'enfance. Eh bien, ils se sont débrouillés pendant l'enfance, grosso modo, à construire une raison qui pourrait tenir ce désordre. Et puis ça n'a pas suivi, ils ont été habités à un certain moment par des contraintes qui sont devenues des symptômes et qui les aidaient à tenir. Ils ont commencé à maigrir. C'est un paradoxe, mais l'anorexie est une solution thérapeutique à l'interrogation sur l'avenir sexué, sur la sexuation à venir, sur être garçon ou fille, sur supporter le regard des hommes à l'extérieur ou redevenir dans un genre neutre. Ou bien ils ont trouvé des rituels obsessionnels, ou bien ils ont développé des phobies qui les mettaient à distance des objets phobogènes qui les inquiétaient. Ils ont trouvé des stratégies adaptatives de survie qui sont des contraintes, qui sont devenues des symptômes, qui risquent de les déterminer et qui ne tiennent plus au moment de la puberté, c'est là où ils viennent, puisque ça commence, on les voit à 11-12 ans, là, jusqu'à 20 ans. Au moment de la puberté, le corps change, se transforme massivement, pour les filles en particulier. Ce corps se transformant, il ne pense plus, il ne rêve plus, il ne fantasme plus, et surtout, il ne gère plus la même distance affective et relationnelle avec leurs proches qu'avant. Ça devient compliqué. Lorsque ces symptômes comportementaux qui étaient prothétiques ne tiennent plus, vous voyez arriver des signes inquiétants qui sont les attaques directes du corps, c'est-à-dire les scarifications, les automutilations, et puis après les tentatives de suicide. Avec dans la grande majorité des cas, pas une volonté de mort, une volonté que cette angoisse qui n'est plus canalisée par les symptômes qu'ils avaient trouvés, que cette angoisse s'arrête, qu'elle ne les désorganise pas, avec le fantasme aussi qui pourrait renaître de leurs cendres après cette tentative de suicide pour redémarrer avec un effet on-off. Sauf qu'ils ne savent pas que ça n'est pas anodin d'attenter à ces jours. Que l'acte lui-même réorganise votre personnalité autour de cet acte. Vous êtes passé de l'autre côté du miroir. Vous avez traversé une ligne d'ombre. Et ça, ça peut vous déterminer. D'où la fréquence des récidives de tentatives de suicide.
Ce qu'on appelle donc les crises suicidaires, ce sont soit des jeunes ou des adultes qui vont donc présenter donc des idées suicidaires ou qui vont vraiment donc avoir des passages à l'acte suicidaire.
Sylvie Torgemann, professeure en pédopsychiatrie à l'Université de Rennes et chef du pôle hospitalo-universitaire de pédiatrie de l'enfant et de l'adolescent.
Et dans les idées suicidaires, c'est très important de rappeler que les idées suicidaires ne font pas forcément systématiquement partie du champ de la santé mentale. Il peut y avoir tout à fait des jeunes qui vont bien, qui vont se confronter à l'idée de la mort. Et on considère que généralement, c'est même de l'ordre de 15%, donc c'est quand même plutôt assez fréquent, qui vont se confronter à l'idée de la mort pour pouvoir aussi mieux se projeter sur des projets d'avenir et la vie. Ce qui fait qu'on rentre dans le champ de la santé mentale, c'est quand il y a des facteurs associés, comme par exemple des antécédents de tentatives de suicide, des problématiques de troubles psychiques associés, que ce soit dépressif ou anxieux, que ce soit au niveau personnel ou familial. Donc tout ça est analysé et un facteur important qui avant était un peu minimisé, qui pour nous apparaît être un facteur clé au jour d'aujourd'hui, c'est l'impulsivité. C'est-à-dire que quand il y a une impulsivité, on a fait une recherche sur 66 jeunes qu'on a suivis pendant un an suite à une tentative de suicide et à T0 quand on les voyait aux urgences, on évalue un certain nombre de choses comme la sévérité des idées suicidaires, l'anxiété, la dépression. Et l'impulsivité, et le seul facteur qui à T0 prédit ce qui va se passer au niveau des sévérités des idées suicidaires un an plus tard, c'est l'impulsivité.
Marie-Rose Moreau, qu'est-ce qu'on doit surveiller chez un jeune pour comprendre l'état de la santé mentale du jeune? Est-ce que c'est des changements brusques de comportement?
Il y a effectivement plusieurs choses qui doivent attirer notre attention. Les changements brusques de comportement, ça c'est un signe très important. Ça doit toujours attirer l'attention des parents, des enseignants et des professionnels parce que un adolescent qui modifie son rapport au monde, quoi, c'est toujours qu'il se passe quelque chose d'important en général à l'intérieur de lui. Mais moi, je dirais que les adolescents, ils disent souvent qu'ils vont mal. Enfin, ils le disent qu'ils vont mal. Il suffit de les écouter sérieusement, de prendre au sérieux ce qu'ils disent, en fait. Bien sûr, il ne faut pas s'arrêter au comportement. Un adolescent qui claque une porte, ça ne veut rien dire, quoi. C'est banal. Et c'est pas à ce moment-là, évidemment, qu'on peut parler de ce qui lui arrive. Mais après, une fois que deux heures plus tard ou trois heures plus tard, on peut parler. Et c'est rare que les adolescents disent pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Mais nous, les adultes, je pense qu'on a un peu oublié ce que c'était l'adolescence. C'est sûrement nécessaire pour devenir adulte, mais je pense qu'il y a une sorte de méconnaissance de la spécificité de la parole et de la vie adolescente. Eux, ils se plaignent souvent, ils disent « on m'a pas écouté, on n'a pas pris au sérieux ». Et d'ailleurs, les enquêtes montrent que c'est vrai. À l'INSERM, il y a une belle étude qui avait été faite là-dessus. Vous prenez un ado qui fait une tentative de suicide aujourd'hui, puis vous lui demandez à qui il a parlé de ses idées suicidaires dans l'année qui vient de s'écouler. Et en général, vous trouvez 3 adultes à qui il l'a dit, en moyenne. Pas toujours directement, mais à qui il a dit, lui considère qu'il l'a dit. Il l'a dit à sa prof de philo, il l'a dit à l'infirmière scolaire qu'il a été voir une ou deux fois parce qu'il n'était pas bien, et il l'a dit à sa grand-mère, par exemple. Et ils sont capables d'identifier autour de 3. C'est beaucoup. Parce qu'il y a des idées saugrenues. Par exemple, des fois, j'entends dire, et je le vois écrit, que quelqu'un qui dit qu'il veut se suicider, il ne va pas le faire. Que exprimer des idées suicidaires, ça serait protecteur. Mais non, de quoi? C'est bien de les exprimer, mais si personne n'entend, il ne se passe rien. C'est-à-dire que ce n'est pas en soi protecteur. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que quelqu'un, à ce moment-là, arrête ce qu'il est en train de faire et dise alors ce que tu m'as dit là, vraiment, c'est... D'abord, je te remercie d'avoir la confiance que tu as de me dire une chose aussi grave. Et maintenant, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais il faut qu'il se passe quelque chose.
On voit beaucoup plus de filles. Ça ne veut pas forcément dire que les garçons vont mieux. On voit beaucoup plus de filles parce que qui dit idée suicidaire dit expression des émotions et expression des idées suicidaires. Et en termes de différenciation sexuée, au niveau sociétal, les filles sont beaucoup plus attendues dans une expression des émotions, alors que les garçons, il y a quand même toute une éducation au niveau sociétal où on va apprendre aux garçons à ne pas exprimer leur douleur, qu'elle soit donc morale ou qu'elle soit physique. Il faut qu'ils soient censés être durs à la douleur. Ce qui fait que les garçons peuvent très bien avoir un mal-être qui évolue à bas bruit et qui va s'exprimer, y compris avec des tentatives de suicide, sans qu'on ait pu repérer en amont qu'il y avait une expression d'idées noires et d'idées suicidaires. Là, c'est un point qui est très clair et qui est connu depuis des décennies. C'est-à-dire que les deux seuls troubles psychiatriques où il y a plus de filles que de garçons, sinon c'est habituellement l'inverse, il y a plus de garçons que de filles au niveau de troubles psychiatriques. Les deux seuls troubles, c'est les troubles anxieux. Et c'est les troubles du comportement alimentaire qui sont du côté des filles.
Ok, qu'est-ce que toi tu penses de ce qui s'est passé la semaine dernière?
La thèse?
Ouais.
Je pense que là je commence à regretter parce que j'aurais vraiment pu y laisser ma vie et c'est pas ce que je cherchais. Donc je cherchais juste à avoir de l'aide et franchement je pense que si j'avais pris le temps de parler avec ma mère, elle aurait pu directement comprendre et on serait allé voir des professionnels. Mais c'est que je pense que j'étais tellement fatiguée et tout que j'arrivais plus à parler. Et donc je pense que j'aurais dû me forcer à ce moment-là. Donc je regrette un peu. Je pense que si vraiment j'ai eu des problèmes de santé après ça, là j'aurais énormément regretté. Mais là, comme je suis bien, j'ai pas non plus
de séquelles. Moi.
Oui, voilà.
Et tu dirais que cette semaine, alors il y a le contexte de conflit avec ta sœur, mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a eu des moments où il y a eu à nouveau des idées noires, des idées suicidaires, des envies de mourir?
Non.
Non. Et auparavant, avant la tentative de suicide, ça arrivait à tous les combien des pensées comme ça?
Ça défendait.
C'était pas quotidien?
Non, mais des fois à l'école, il y en avait qui arrivaient comme ça, et après ça partait avec le temps, mais c'était dur à contrôler, quoi.
Ok. Sur l'appétit, l'alimentation, est-ce qu'il y a eu des choses cette semaine?
Non.
Parce qu'il pouvait y avoir des difficultés avec l'alimentation quand même auparavant.
Oui, en fait, je me faisais énormément vomir, genre 3 fois par jour, comme ça.
Et là, c'est pas arrivé cette semaine?
Non, je me suis pas. Bah, lundi, je voulais me faire vomir parce que j'étais un peu stressée. J'étais en cours, je suis sortie, je suis allée, j'étais avec mes copines. 3 secondes plus tard, on était en train de rigoler par terre. Et
t'étais stressée à cause de quoi?
Je sais pas, des fois j'ai des bouffées de stress.
Ça se manifeste comment?
Bah, je commence à avoir du mal à respirer, et c'est comme le début d'une crise d'angoisse, mais sachant que je vais pas faire une crise d'angoisse.
C'est donc plutôt des trucs physiques. T'as l'impression de pas respirer bien.
Ouais, voilà, c'est ça. T'as avoir un poids dans les poumons.
Okay.
Oui, donc en fait j'ai senti que j'allais me faire vomir, parce que c'était mon truc. T'es stressée, tu te fais vomir.
C'était soit se faire vomir, ça pouvait aussi arriver de se faire du mal, si j'ai bien compris.
Ah oui, mais ça, j'ai arrêté il y a pas mal de temps déjà. Et en fait, j'ai énormément regretté parce que les cicatrices avec l'été, bah, ça va être chaud. Et donc, oui.
Okay. Et donc ça, c'est pas du tout arrivé, l'idée de se faire du mal à nouveau pour gérer le stress?
Non, c'est se remuer.
Okay.
Parce que moi, quand je suis stressée, on m'a énormément dit que si j'agissais. J'étais stressée, je me mutilais, j'étais stressée, je me suis vomir.
Et justement, quelle autre action tu pourrais faire?
Ah.
Au lieu de se faire du mal, parce que se faire vomir ou se scarifier, c'est faire du mal.
En fait, j'ai une amie donc qui a eu pas mal de problèmes aussi. Mutilation, vomi, se faire vomir, elle a été violée, bon. Voilà. Donc, elle m'a conseillé de mettre des trucs en place, comme ma psychiatre. Et au final, en fait, donc je faisais des dessins, genre des coloriages, genre Disney. Mmh. C'était trop bien. À un moment donné, ça marchait plus. À cause des pensées suicidaires, ça marchait pour la scarification, mais ça marchait pas pour les pensées suicidaires. Donc, je me suis mise à l'écriture. Ça a duré genre 2 jours, après j'en ai eu marre. Et après je suis revenue au dessin et ça avait marché. Après j'étais à la peinture. Et en fait, après j'avais plus envie de me scraper.
Il y a une partie des ados qui se scarifient, peut-être 20% qui le font parce qu'ils se rendent compte que ça crée de l'inquiétude des adultes et c'est pour eux un appel à l'aide.
Hélène Romano, psychologue.
Alors certaines fois ils le font parce qu'ils ont entendu parler, ils ont vu des tutos qui explique comment se scarifier.
Des tutos.
Ou alors, ils ont été à l'hôpital pour autre chose, et ils ont vu qu'un enfant se scarifiait, et que du coup, tout le monde était inquiet, du coup, ils le font. Mais avec quoi ils vont le faire? On peut se scarifier avec un bout de papier, avec une punaise, avec un scalpel, avec un couteau, c'est pas pareil. Parce qu'il n'y a pas le même risque vital. Je ne vais pas me tuer avec un bout de papier. Avec un scalpel, je peux me tuer. Si je me suis scarifiée au niveau de la carotide, c'est pas pareil qu'au niveau de l'avant-bras, sur le devant-bras. C'est très important la topographie. Donc ça, c'est une partie des enfants qui ont vu, ça pouvait inquiéter les parents, des enfants qui ont vu que ça pouvait inquiéter les professionnels parce qu'ils en ont vu d'autres se scarifier. Donc c'est les partie près de 20%, mais 80% globalement, s'il fallait qu'on ait des chiffres, d'adolescents qui vont se faire du mal ou d'enfants qui se font du mal, le font dans un contexte de violence traumatique qu'ils perçoivent, qui les déborde. C'est insupportable. Et pour penser à autre chose, ils vont se faire mal. Et ils le disent très bien. Quand je me blesse, je pense à autre chose. Alors, ils pourraient se taper. Certains tapent, cognent. Mais la scarification entraîne le sang. Et pour certains, le sang était aussi un dérivatif visuel, sensoriel. Alors vous allez me dire, oui, mais quand je me tape, je me cogne, je me fais mal et j'ai l'hématome. Pas forcément tout de suite. Le sang, ça entraîne aussi quelque chose de l'angoisse de mort. Donc le sang a cette dimension mortifère. Et dans la scarification, pour des enfants qui ont des angoisses de mort ou qui tout d'un coup repensent au père suicidé, repensent au confinement, à l'angoisse qu'il y a eu au moment du confinement, au déménagement, au fait d'avoir perdu des amis, au sens de perte, des choses compliquées pour eux, à la séparation ou à des agressions, du harcèlement, des violences sexuelles, ils vont se faire mal, ils nous le disent très bien, pour avoir un dérivatif et parce que en se blessant, il y a le sang, je vois le sang qui coule et je me dis j'aurais pu mourir. Donc une sorte de je suis passif, je subis les choses et je deviens actif, acteur, mais en me faisant mal. Donc ça est très masochiste, mais c'est un masochiste qui s'inscrit dans quelque chose, triple guillemets, de constructif pour se dégager de la douleur.
Vous, Alex, comment vous êtes aujourd'hui? Alors, comment vous vous sentez? Comment vous allez?
C'est compliqué à expliquer. Je me sens toujours très seule, des fois, et très incompris. Et ça me blesse vraiment au quotidien parce que voilà, je me dis que j'arrive pas à me prendre au sérieux moi-même et les gens n'arrivent pas non plus. Et des fois, je me dis que bah, les traitements, les hospitalisations et les psys n'aident pas. Et que bah, des fois, ça va même pire que quand j'étais en septembre. Donc, je sais pas.
Et l'hospitalisation, alors qu'est-ce que ça a changé? Le fait d'avoir passé 10 jours ici, ça a changé quoi?
Je sais pas. Être hospitalisée sur le coup, ça m'a permis de me reposer, entre guillemets, un peu de tout ce monde et de me dire, j'essaye de me calmer un peu et d'arrêter un peu le collège pour une durée limitée. Et ça m'a calmée, mais après, ça revenait. D'ailleurs, juste après l'hospitalisation à Mâcon, j'ai été hospitalisée à Sevray, un hôpital pédopsychiatrique. J'y ai passé 10 jours à peu près. C'était bien plus différent. L'expérience était. Je ne sais pas comment la décrire.
C'était plus fermé, plus.
Oui, aussi parce que j'ai eu beaucoup de mal avec les psychologues et les psychiatres de Sevray. Et la chef, entre guillemets, de l'hôpital, elle était très froide et voilà, très stricte. Par exemple, elle a dit non, il n'y aura pas de visite, aucune visite. Et les appels, c'est une fois par semaine pendant 5 minutes, je crois. Avec la famille, et c'est que seulement la famille, parce que les amis, évidemment, c'est moins important que la famille. Donc les permissions le week-end, c'est seulement après la première semaine complète. Il n'y avait pas de carte SIM dans le téléphone dès qu'on y était, et puis des choses comme ça, donc pas de communication avec l'extérieur. Donc ça m'a aussi marqué. Juste que ça se coupe comme ça, ça m'a juste renfermé sur moi-même, ce qui ne m'aide pas, très honnêtement.
Cette société-là, elle nous demande d'appliquer des logiques mathématiques aux humains, dans tous les domaines, au fond.
Eva Bujadou, psychologue à l'hôpital de Mâcon.
Je crois que c'est ce qui fait que c'est si criant dans la question du soin, parce que quand on accueille, quand on rencontre, ben, en fait, c'est d'abord une rencontre d'humain à humain. Et ça se quantifie pas, et ça, c'est pas un acte, et ça, c'est pas une évaluation, c'est juste ça, le soin. C'est du temps et une rencontre. Mais ça rentre pas dans les logiques mathématiques ou dans les logiques managériales ou qui envahissent nos institutions et les institutions de soins, mais aussi la protection de l'enfance, mais aussi l'éducation nationale. Enfin, cette question de... Il faudrait être performant, au fond. Alors, on ne peut plus rencontrer de la même manière.
Et on prend des risques.
Et on prend des risques. Moi, je vois bien ce que ça fait en entretien, c'est-à-dire quand j'accueille un jeune et que je l'écoute et que j'essaie de l'écouter en me disant « Ah, oh, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Mais est-ce qu'il va pouvoir rester le temps dont il a besoin ici? Oh, puis les lits sont pleins. Oh, ben on n'écoute pas de la même manière. Hein, c'est-à-dire que, en termes de sécurité, dans notre cadre de travail, on n'écoute pas de la même manière quand on sait que une fois sorti de l'hôpital, il va y avoir les mesures de protection nécessaires, quand il va y avoir le soin nécessaire, quand on sait qu'on va pouvoir les garder le temps nécessaire à ce que la psyché se rétablisse. C'est ça qui peut être compliqué dans notre pratique, c'est mais pour tous au fond, hein, cette éthique du soin, ce qu'on essaye de défendre en termes d'écoute, c'est-à-dire ce qu'on essaie de proposer, c'est une expérience où les ados ont le sentiment d'être entendus.
Ils sont ici aussi parce qu'ils n'ont pas été entendus.
Oui, tout à fait. Ils ont fait l'expérience que ça ne servait à rien, ou en tout cas, la réponse qui leur a été faite ne suffisait pas. Je pense à une jeune qui vient régulièrement, qui est régulièrement hospitalisée. Mais heureusement, parce que quand elle sort, il n'y a rien. C'est-à-dire quelques consultations par-ci, par-là. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Quand on a des hallucinations, quand on a une angoisse telle que on pense à planter quelqu'un, je veux dire, là, on a besoin de soins, on a besoin que quelqu'un contienne ça, quelqu'un nous aide à contenir ça. Alors, il y a le traitement qui fait quelque chose, mais il y a aussi la rencontre avec les soignants. Et ben, je crois qu'il y a des jeunes comme ça qu'on laisse, les plus vulnérables. C'est toujours les plus vulnérables. Ceux pour lesquels les familles n'ont pas les moyens de payer un pédopsychiatre en libéral, une psychologue en libéral. Ceux qui n'ont pas la force, l'énergie, la disponibilité pour se démener, pour trouver une place à son enfant, je dirais. Elle a vu de temps en temps un pédopsychiatre, elle attend une réponse au CMP, mais il y a de l'attente. Hein? Et donc, quand vraiment ça ne va plus, elle vient ici. Mais des fois, c'est ici. Des fois, c'est dans un autre centre hospitalier qui est plus proche de chez elle. Et puis, parfois, elle est hospitalisée dans le service de pédopsychiatrie du secteur. Mais vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une ado qui fait l'expérience d'un temps quelque part, d'un autre temps quelque part, d'un autre temps quelque part. Donc, c'est très morcelé. C'est pas du tout la permanence des soins. C'est pas du tout une continuité.
Nous essayons de faire en sorte, dans les conditions actuelles qui ne sont pas très favorables, mais qui le sont quand même beaucoup plus en France que dans bon nombre de pays européens, ne l'oublions pas. Nous essayons de créer les conditions d'une rencontre identificatoire heureuse.
Maurice Corcos, professeur de psychiatrie, chef de service du département de psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte à l'Institut Mutualisme Montsouris.
Il faut que ce soit un événement. Il faut que cette rencontre, ça ne soit pas une gestion industrielle de 20 patients par jour, c'est pas possible. Parce que ces patients arrivent à reculons. Ces patients ont encore peur de la psy. En général, c'est les parents qui les amènent. Ils ont une crainte considérable avec des fantasmes concernant la folie. Et si cet accueil n'est pas suffisamment bienveillant, si ils ne témoignent pas cet accueil d'une compréhension sans que ce soit un devinement de ce qui se joue, si bref, cette rencontre ne fait pas événement, et si elle n'arrive pas déjà à commencer à contenir, à catalyser les peurs, les angoisses qui sont à l'origine de ce chaos, alors vous allez voir ce que vous voyez dans bon nombre d'établissements, une consultation one shot et il ne revient pas. Et ça, c'est dramatique. D'où l'importance ici de relancer considérablement et systématiquement les choses. Ou une fugue, ou un passage à l'acte, ou des parents avec qui on n'a pas suffisamment travaillé et qui ne comprennent pas la nécessité d'être dans l'alliance avec nous pour amener ce patient, y compris avec une certaine contrainte, une contrainte extérieure qui lui permettrait de canaliser la contrainte intérieure qui l'empêche de venir. Si l'alliance avec les parents ne se fait pas dans 7h30 de la première rencontre, alors on aura beaucoup de mal à créer les conditions du démarrage, de l'amorce d'un suivi. L'alliance avec les parents, c'est fondamental. C'est l'ancrage dans un transfert, pour dire un gros mot. La bienveillance crée une certaine communion affective avec les parents qui ne se sont pas jugés, mais dont on comprend la détresse, avec un patient qui n'a pas le sentiment qu'il est fou et qu'il va avoir un traitement là, dans la minute ou qu'il va être interné, parce que c'est ça le fantasme, mais qu'il va être entendu et écouté. Donc vraiment, le début de la trajectoire de soins, c'est cette rencontre. Et si les conditions ne sont pas bonnes, il va arriver ce qui arrive en ce moment, c'est-à-dire que les patients font un ou deux entretiens, ensuite s'en vont, et puis ils vont explorer un autre médecin. Le nomadisme médical en psychiatrie est considérable. Mais il faut leur dire avec suffisamment de bienveillance, nous allons nous installer sur une certaine durée. La durée, Merleau-Ponty, Bergson, Spinoza, la durée c'est l'affect.
Lorsqu'on reçoit une famille avec un enfant, bien sûr qu'on va chercher des causes environnementales et familiales, car le plus souvent, parfois, c'est intriqué.
Pierre Lévy-Soussan, psychiatre et psychanalyste.
C'est-à-dire, on a quelque chose d'un héritage neurodéveloppemental que l'on a, et à cet héritage neurodéveloppemental, il va y avoir un héritage véritablement familial. Et si je puis dire, si je rentre en cause tous les liens épigénétiques et pendant la grossesse, et voire même avec tout l'acquis et ce qui s'ensuit, comment il va modifier l'inné? Donc on sait qu'il va y avoir un équilibre entre l'inné et l'acquis. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être en l'occurrence les facteurs que l'on peut mobiliser. Les facteurs que l'on peut mobiliser, ça va être ce qu'il en est justement des interactions familiales. Donc une interaction familiale avec l'enfant, lorsqu'on va rechercher ce qu'il en est des causes, ce qu'il en est de l'histoire passée des parents, ça n'est pas pour les culpabiliser, c'est au contraire pour les responsabiliser. Et pour les responsabiliser à la fois certes de leur histoire avec l'enfant, mais de les responsabiliser dans leur propre histoire personnelle. C'est-à-dire les remettre à la place de sujet. C'est-à-dire les remettre à la place de quelque chose qu'ils ont subi, et bien là, ils vont pouvoir en prendre la mesure et devenir acteurs de quelque chose qu'ils ont subi par le passé. Donc c'est pour nous, au contraire, quelque chose d'extrêmement important, y compris pour eux, de façon à non plus subir ce qu'il en est de l'intergénérationnel et de le répéter d'une façon passive et de compulsion de répétition, mais au contraire, de prendre la mesure de ce qu'ils ont pu être agi pendant leur enfance, pour ne plus l'agir avec leur enfant. C'est pour ça que dans les consultations familiales, on dit, voilà, ça vous évoque quoi, ce qu'il fait? Ça vous évoque quoi quand il vous insulte? Ça vous évoque quoi, ceci? Et là, paf, on revient dans le passé. Et c'est pour ça que pour nous, le passé parental, c'est un tiers que l'on va mettre entre le parent et l'enfant, de façon à supprimer parfois la dualité narcissique intolérable qu'il peut y avoir entre les deux. On agit à la fois sur le parent et sur l'enfant, et on agit sur le couple. Parce que tout cela, je ne vous dis pas à quel point aussi le choix du couple est en lien avec son histoire d'enfance et infantile. Donc vous voyez à quel point une consultation familiale est riche. C'est-à-dire, si on a l'enfant, le père, la mère, et si on a en tête le grand-père, la grand-mère, vous voyez combien on est psychiquement dans cette pièce.
Bon, écoutez, on va démarrer donc tranquillement donc l'entretien.
Consultation du professeur Torgman avec Laura et sa mère.
On se voit actuellement une fois par mois, en sachant que là, on est déjà donc à distance de la situation de crise. Aujourd'hui, on va un petit peu reprendre finalement toute la trajectoire, de façon à voir un peu tout le chemin parcouru. C'est le deuxième entretien qu'on fait comme ça, c'est-à-dire, puisque la dernière fois on s'était dit là, il faut vraiment que la partie psychiatrique soit mise en place, et ça va être nous qui allons la continuer. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez aborder aujourd'hui?
Pas particulièrement. Alors de mon point de vue, si, quand même, malgré le traitement pour dormir, les nuits ne sont pas ni de bonne qualité ni très longues. Elle a des endormissements très tardifs. Et puis le deuxième point, j'ai vu une dégradation dans les temps passés au lycée. Donc non pas au point de vue études, puisqu'elle a demandé à avoir plus de cours, mais tous les temps où elle était en interaction avec d'autres jeunes. Donc la cantine, les intercours, les choses comme ça qui étaient de plus en plus difficiles à vivre. Et ça, on n'avait pas ça les fois d'avant.
D'accord, ça c'est important. Est-ce que vous avez une idée, Laura, de pourquoi ça se passe comme ça, ce d'autant que c'était pas présent les autres fois, c'est ça? C'est depuis combien de temps à peu près qu'on...
Je dirais peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça.
Est-ce qu'il s'est passé quelque chose il y a 3 semaines?
J'ai pas de souvenir d'événement particulier.
Peut-être que ça vient réactiver certaines choses qui sont en rapport et en résonance avec ce qui a pu se passer avec des jeunes. C'est quand même pas rien dans le contexte dans lequel on vous a rencontré, qui était suite à ce souhait que vous aviez de venir sur le toit de l'école et de sauter, quoi. C'est-à-dire que ça s'est passé à l'école avec aussi les autres jeunes. La situation dans laquelle on vous a connu, elle est peu commune, hein. C'est du coup dans le cadre du lycée et avec une volonté, même si ça n'a pas été possible parce que la porte était fermée, c'était ça l'événement. Oui. Mais en tout cas, du coup, un certain mal-être qui a pu être visible quand même de certaines personnes et en tout cas qui a été dit. Ceci dit, ça peut paraître paradoxal parce que là, pour le coup, vous n'avez pas eu peur du regard des autres. Là, ce n'est pas quelque chose qui vous a empêché, quoi.
Non, pas du tout. Sur le moment, le regard que les gens pouvaient poser sur moi ou mon action m'apportait très, très peu.
Parce que vous étiez trop mal?
Oui, probablement. C'est que j'en avais plus rien à faire, quoi. C'était... J'avais résolu d'aller jusqu'au bout, donc... Quoi qu'ils disent, bon, ça n'avait pas vraiment d'importance.
Face à une augmentation de plus de 100% des crises suicidaires chez les adolescents de moins de 16 ans en Ille-et-Vilaine, suite à la crise sanitaire, une équipe mobile en pédopsychiatrie, l'UMSAD, va à la rencontre des jeunes et de leurs familles.
C'est simplement un camion qui est aménagé en bureau avec une table.
Frédéric Jumel,
des chaises, en fait.
Infirmier en psychiatrie sur l'UMSAD.
On s'installe autour de la table, soit le jeune ou sa famille, et sa famille. Et puis on travaille toujours à deux. Tout corps de métier, le pédopsychiatre, psychologue, infirmier, assistante sociale, éducatrice.
Vous allez où en fait? Vous pouvez nous montrer un petit peu?
Nous, on est basé sur un CMP, donc Centre Médico-Psychologique Rennais, et on comptabilise à peu près 30-35 minutes, et on va sur toutes les villes autour à 35 minutes.
Alors, c'est quoi la mission?
Alors, la mission, évaluer les jeunes en difficulté, essentiellement prise en charge, évaluation, crise suicidaire, pour une grosse partie, et avec l'idée, dans la suite, un suivi pour certains sur... 6 mois reconductibles, 2 à 3 fois, avec travail de groupe, thérapie familiale, diverses propositions en fait pendant le suivi.
Qu'est-ce qui appelle au CNP pour vous déplacer?
Souvent, c'est les urgences, que ce soit à la sortie ou que ce soit au cours d'hospitalisation. Donc ça, c'est si ça touche l'hospitalier, ou autrement, on peut être appelé par différents partenaires qui gravitent autour de ces jeunes.
Par exemple, l'équipe mobile d'urgence pédopsie va recevoir du coup aux urgences, donc en blouse blanche avec un modèle médical. Et dès le deuxième rendez-vous, ils sortent des urgences. L'évaluation, elle va continuer à se dérouler sur un certain nombre de rendez-vous, que ce soit au domicile, que ce soit au CMP. On va avoir des lieux différents qui vont permettre que des choses différentes puissent s'exprimer. Et suite à ces différents rendez-vous, il va y avoir en effet une synthèse qui va permettre de construire et co-construire donc un projet avec la famille, puisqu'on va lui restituer les avis justement divers et variés donc des différents binômes qui se sont succédés, puisqu'on a des binômes différents qui vont aller sur les différents rendez-vous. Et on va co-construire avec le jeune et sa famille et donc le projet par rapport au relais qui va être posé. Et un point important, c'est ce travail d'évaluation des changements de lieu. Parce que dans chaque lieu, il va y avoir une identité différente qui peut apparaître du jeune, des facettes différentes. Les personnes ne vont pas s'exprimer de la même façon. Il n'y a pas la même narrativité selon le lieu dans lequel on se retrouve. Si c'est on est sur le lieu de vie avec le lieu du domicile, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont se dire, y compris si le jeune fait de la musique, on va peut-être s'apercevoir qu'il a des ressources dont on ne serait pas aperçu dans un bureau médical. Si on est puisqu'on a des camping-cars, un camping-car aménagé en bureau mobile, c'est un peu un lieu, un entre-deux qui va permettre de faire émerger autre chose. Et quand on est sur un lieu qui est un lieu de centre médico-psychologique, c'est en effet le lieu de soins. Et on a vraiment pu mettre en évidence que le lieu qui était massivement choisi, puisque c'est à chaque fois la famille et le jeune qui choisissent le lieu, c'est pratiquement systématiquement le lieu du domicile. Et Quand on suit la trajectoire du jeune, on avait fait une analyse sur 690 adolescents, on part du domicile et on atterrit au CMP, qui est comme le lieu du soin, et on transite par le bureau mobile, qui est un espace un peu transitoire et transitionnel. Et on a vraiment l'impression que du coup, l'équipe mobile donc, joue un rôle d'accompagnateur, de passeur d'espace-temps, puisqu'on est dans l'espace-temps de la crise et de l'urgence. Et on va accompagner donc le jeune et sa famille vers un autre espace-temps qui va être l'espace-temps donc de l'élaboration psychique. Et on a certains outils pour pouvoir accompagner tout ça. On essaie d'avoir des rendez-vous qui vont être scandés dans le temps, rythmés avec une fois par semaine, de façon à introduire une autre temporalité que le temps de l'immédiateté. Et le point qui est important, c'est que on a fait des analyses statistiques sur nos différents lieux. Et on s'est rendu compte que si tout se passe sur un même lieu, c'est significativement associé à une rupture de la prise en charge donc du jeune et de sa famille. On s'est demandé pourquoi. Et dans les différentes hypothèses qui ont été développées par l'équipe, il y avait la première hypothèse qui était que le premier lieu qui est choisi étant le domicile, s'il y a deux lieux, ça veut dire que le jeune il est sorti et sa famille sont sortis du domicile. Et donc ça veut dire qu'on est sorti, il y a une ouverture sur l'extérieur. La deuxième hypothèse était que dans ce mouvement finalement d'aller sur un deuxième lieu, eh bien il y avait un mouvement physique qui venait accompagner finalement la mobilisation psychique. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui, pour pouvoir penser, ont besoin de marcher ou ont besoin d'être en mouvement dans un véhicule. Et enfin, la troisième raison qui nous paraît une des plus importantes, c'est qu'en effet, les personnes ne racontent pas la même histoire selon les lieux. Ce qu'on va rechercher, c'est un changement de perspective, qui est un changement de point de vue, et que ce changement de point de vue puisse venir accompagner une mobilisation des représentations. Je vous voyais faire un oui de la tête, Laura, c'est-à-dire qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que certaines personnes parmi les jeunes de votre âge ont pu venir vers vous alors que c'était pas forcément ni des copains ni des amis et vous poser des questions indiscrètes ?
Oui, c'est arrivé. Parce que avec l'hospitalisation et après tout le temps à la maison qui s'en est suivi, j'étais absente un sacré bout de temps quand même, donc... Il y a des questions.
Et ces questions, elles vous ont mis à mal ?
On ne sait pas trop quoi répondre, quoi. Parce que c'était difficile d'expliquer la raison. Donc on dit juste, j'ai eu un problème médical et voilà.
Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a une situation similaire qui n'a rien à voir avec votre crise suicidaire ? Et dans laquelle, finalement, vous aurez des gens dont vous n'êtes pas spécialement proche, vous aurez un petit peu demandé un peu des comptes ou de vous expliquer que ça vous aurait mis à mal parce que vous n'aviez pas envie de parler. Ce que je recherche, c'est le même sentiment d'oppression, c'est la même émotion.
Je ne saurais pas dire avec précision parce que ça
remonte. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, Laura ?
Je dirais la mort de ma cousine il y a 6 ans. Et là, on avait été absent quelques jours. J'étais en collège et donc là... Les gens sont toujours très curieux à propos des vies personnelles des autres personnes. C'est assez compliqué parce qu'on nous pose des questions et on vient vivre un événement difficile. Donc on ne sait pas quoi répondre.
On n'en a pas parlé de la mort de votre cousine. On avait parlé du décès de votre cousin. Le décès de votre cousine, c'est la sœur du cousin ? D'accord. Et c'est une des deux sœurs du cousin qui est décédée d'une maladie, somatique, c'est ça ?
Oui, d'une maladie orpheline, oui.
Ça a été quand même un des moments clés quand on a essayé de comprendre un peu qu'est-ce qui se passait pour vous et qu'est-ce qui était douloureux qui avait pu amener à ces idées de mort. Et on était à peu près à un an, c'est ça, de l'anniversaire du décès du cousin, si on peut dire. C'est ça, je ne me trompe pas ? Et avec ce décès du cousin qui, lui, n'avait pas de maladie orpheline, alors que ses deux sœurs en avaient. Et c'est pas inintéressant qu'à un moment donné, vous êtes en plein dans un travail de psychothérapie, que des émotions, qui sont des émotions que vous avez connues il y a 6 ans, c'est pour ça que j'allais sur le chemin des émotions, si vous voulez. Des fois, il y a une résonance émotionnelle qui vont faire qu'un événement qui est attaché à l'émotion va ressurgir. Et donc, spontanément, vous avez reparlé de ce décès de votre cousine qui fait partie quand même du noyau dur de ce qui a probablement aussi déclenché le suicide de votre cousin. et où là, on se retrouve avec la même émotion d'oppression, avec des personnes qui venaient vous parler alors qu'elles n'étaient pas proches vraiment directement de vous, et où vous n'aviez pas spécialement envie de leur parler, et où il y avait ce sentiment, cette angoisse-là, et où on se retrouve avec cette angoisse-là maintenant par rapport aux jeunes qui sont au self. Donc en tout cas, je ne sais pas pourquoi ça se déclenche maintenant, peut-être que c'est parce qu'il y a des choses qui se travaillent en psychothérapie, mais en tout cas, on est sur une même émotion que vous avez ressentie et qui est en rapport avec le noyau qui a vraiment, enfin il me semble, hein, rétrospectivement, après on peut se tromper dans les hypothèses qu'on a déroulées, mais que ça a été quand même le noyau dur qui a fait qu'il y a eu un état de mal-être à un moment donné avec quelque chose qui a débordé et qui doit être travaillé, qui va probablement être travaillé progressivement. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un soutien. C'est-à-dire que même si les choses sont un peu plus à distance, on ne peut pas lâcher le soutien avec les différents axes de travail, avec la psychothérapie. Parce qu'on pourrait se dire que quand il y a des choses comme ça, bah, finalement, c'est une régression, que ça va moins bien. Je ne suis pas persuadée que ça aille moins bien. Je pense que juste ça fait partie du travail et que dans ce travail, il y a des choses qui sont réactivées. Mais vous avez aussi des filets de sécurité pour pouvoir travailler ces angoisses et faire que vous n'allez pas être débordé par ces angoisses. Voilà. Et si jamais vous étiez un tant soit peu débordé, on en reparle. On a dans un mois pile, avant les vacances, les grandes vacances. Je ne sais pas quand est-ce que vous partez en vacances d'ailleurs. Ça veut dire qu'on
a encore... Avec Maurice Corcos, Eva Bujadou, Alex, Sylvie Torjman, Laura et sa mère, Frédéric Jumel, Pierre Lévy-Soussan, Hélène Romano, Marie-Rose Moreau, Vincent Trébossène, Elissa et sa mère. Merci à Pablo Votadoro de l'Institut Mutualisme en Souris, à Sonia Baffaro, psychiatre du service de pédiatrie du Centre Hospitalier de Mâcon. Merci au Centre Hospitalier de Mâcon et au CHS de Sevray. Merci à toute l'équipe de l'UMSAD, à l'hôpital Robert Debré et à Nathalie Ten.
Moi, ce qui a été le plus dur pour moi, c'est de me confronter à moi-même, en fait. C'est-à-dire que bah, quand j'étais à l'extérieur, j'allais mal, mais je me laissais aller mal, en fait. Et quand j'étais hospitalisée, bah, notamment à l'IMM, bien sûr, j'étais entourée, mais je pense que j'ai fait beaucoup de travail par moi-même. Et c'était le fait de se dire, en fait, là, tu ne peux plus aller mal. Tu ne peux que faire les choses pour aller bien. Et c'était un réel combat avec moi-même. Aujourd'hui, j'ai 17 ans, mais ma première hospitalisation, j'avais 9 ans et demi.
Moi, j'ai 17 ans aussi. Moi, je sais que mon infirmière référente aussi, Alice, m'a beaucoup aidée, surtout les premiers temps, où j'avais vraiment du mal à accepter tout ça et à m'ouvrir aux soins. Et je pense que le fait qu'elle ait été patiente, elle est très douce, ça se voit qu'elle aime vraiment son métier et qu'elle veut vraiment qu'on aille bien. Et le fait qu'elle pense vraiment qu'on réussira tous. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a vraiment des gens qui croient en nous.
Prise de son, Virginie Lorda, Martin Troadec, Marc Garvenès, Lucien Lefebvre et Manon Houssin. Mixage Bastien Varigaud, documentation Annie Signoret, chargée de programme Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales, coordination Johanna Bedeau. C'était Jeunesse, le mal de vivre. Le suicide, écoutons-les vraiment. Un documentaire de Johanna Bedeau, réalisé par Marie-Laure Ciboulet. À suivre, Jeunesse, le mal de vivre, quand l'école fait mal.